Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. On est parti pour passer trois quarts d'heure ensemble et puis passer le meilleur moment possible, bien sûr, ensemble. Nous sommes le mardi 11 mai 2021 et même si le ciel est un petit peu gris, même si quelques risques d'averses sont prévus cet après-midi et même s'il y a des possibilités d'orage, un mardi gris, eh bien c'est toujours mieux qu'un lundi pluvieux, alors profitons-en. Au programme de notre émission, nous avons bien sûr notre séance de coaching hebdomadaire de prévu aux alentours de 12h35. On terminera ce rendez-vous avec Bertrand Lamure, notre libraire, pour son humeur littéraire de la semaine. Mais d'abord, on va parler de bien-être. Avec moi en studio, Gwenaëlle Graillot, maître Reiki, avec son salon installé à Villiers-Morgon, qui Ako, activateur de bien-être. Il pratique le Shinaid Sang, le Reiki Usui, l'Access Bar, le Mimito Opi et le Tuina, des méthodes dites de médecine douce, de médecine alternative, pour se faire chouchouter et prendre soin de soi. Alors, si comme moi, tous ces termes techniques que je vous ai cités vous sont des noms inconnus, on va déjà voir ensemble en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça apporte, et puis on va voir ce que c'est que le bien-être, tout simplement. On en parle avec notre invité, Gwenaëlle Graillot. On commence d'abord cette émission en musique, bien sûr, avec aujourd'hui, le 11 mai oblige, pour les 40 ans de sa disparition, Bob Marley and the Wailers avec Satisfy My Soul. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15, merci d'être avec nous.
Oh please, don't you rock my boat.
Don't rock my boat.
Cause I don't want my boat to be rocking. Oh please, don't you rock my boat.
No, no,
cause I don't want my boat to be rocking. I'm telling you that, oh, 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 I like it like this. So keep it steady like this. You should know by now. I like it.
I like it like this.
I like it like this. Ooh, yeah.
Satisfy my soul.
Satisfy my soul.
Oh, yeah.
Satisfy my soul. Action.
Satisfy my soul.
There's a reaction.
Satisfy my soul.
Oh, can't you see what you've done for me? Boy, I'm happy inside. All of the time. Oh,
alone,
and then you
Bob Marley and the Wailers sur Khaled avec Satisfy My Soul. J'imagine que vous êtes déjà bien détendu. Ça va continuer.
Ensemble sur Khaled.
Avec moi en studio aujourd'hui, Gwenaëlle Graillot pour nous présenter Kiako. Bonjour.
Bonjour Mathieu, merci de me recevoir.
Et bah, avec plaisir, on va parler de... Alors, on a dit avant l'émission, avant l'antenne, que d'habitude je vous vois tous mes invités et aujourd'hui vous m'avez demandé de te tutoyer.
C'est ça. le vouvoiement en fait instaure une distance et instaure une barrière. Et en fait, dans le bien-être, je préfère être dans le tu, de façon à faire tomber ces barrières et aller au plus profond de l'être pour trouver le bonheur.
Donc, je vais essayer de m'y tenir.
Tu vas y arriver, je te fais confiance.
Donc, le Kiako, alors c'est ton salon, on peut dire un salon, c'est ça?
C'est ça, on peut dire un salon, on peut dire un cabinet, comme on veut.
Et tu es donc activateur de bien-être, tu es maître Reiki.
C'est ça aussi, oui, tout à fait.
Alors, comment est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure, on va dire?
Ah, comment je me suis lancé dans cette aventure? Ça a commencé, en fait, il y a très, très, très longtemps, en fait. Depuis tout petit, j'ai été attiré par le bien-être et je suis soucieux du bien-être d'autrui. La vie a fait que j'ai pris d'autres orientations professionnelles au début de ma vie d'adulte. Hein, et puis, ce bien-être était toujours là. Et parallèlement à mon travail, je me formais à différentes techniques. Et en 2017, je me suis dit, allez, c'est le moment de me lancer. Et c'est comme ça que Kiako a vu le jour.
Et donc, une question philosophique, on pourrait prendre 4 heures pour y répondre. C'est quoi le bien-être? Avant de parler de comment l'atteindre ou quoi, essayer de savoir ce qu'on cherche. Le bien-être, c'est quoi?
Ah, c'est un état intérieur, un état de paix, un état de calme, un état de sérénité au fond de soi.
C'est dans la tête?
C'est dans la tête, mais c'est aussi dans le corps, puisque c'est le corps qui va générer ces états. Selon les principes de la médecine chinoise, on va mettre toutes nos émotions dans chacun de nos organes, et la colère dans le foie, par exemple, les soucis dans la rate, etc. Et donc, du coup, pour moi, l'état premier qui va générer notre état, c'est vraiment dans le ventre, hein, surcharge d'émotions, par exemple, et on broie du noir.
D'accord. Donc, c'est un mélange des deux, c'est la tête et le corps et l'esprit, comme on dit.
C'est ça.
Et donc, vous avez appris...
Tu
as appris les habitudes dans la vie dure. Différentes techniques.
C'est ça.
À commencer donc par le Reiki.
Le Reiki, effectivement, c'est la première technique que j'ai appris avec ma maître Reiki, qui s'appelle Monique Schlupt, qui est une technique de bien-être japonaise, où là, on va travailler sur le corps énergétique de la personne, de façon à lui insuffler de l'énergie, une énergie dite universelle.
D'accord. Et c'est dans quel objectif là? C'est chercher la détente.
Alors ça va au-delà en fait. Hein, c'est vraiment de la détente. Mais le Reiki est dit une énergie de guérison. Alors bien évidemment, c'est pas le Reiki qui va faire guérir un rhume ou toute autre problématique plus ou moins grave. Mais ça va donner la force au corps en lui-même de trouver la force, de trouver la guérison.
Ça peut accompagner un processus de soins.
Tout à fait, complètement.
Première technique, première corde à ton arc, le Reiki.
C'est ça.
Et puis, y a tout un panel, un éventail de choses possibles au Kiako. Il y a le Shinaitsang. Alors celui-là, pas facile à dire.
Ah, le Shinaitsang. Le Shinaitsang, c'est un massage taoïste, donc d'origine chinoise à la base. Un massage du ventre, un massage de l'abdomen. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, en fait, toutes nos émotions sont stockées dans le ventre. Et quand il y a trop plein d'émotions, ça crée des déséquilibres.
Et dans ce cas-là, c'est les émotions qui vont influer sur le physique, ça veut dire, c'est ça
Sur le physique et sur le mental, oui, bien sûr.
Mais quand c'est stocké dans le ventre, ça veut dire que ça va travailler, que si on a des mal de ventre ou quoi, ça peut être nos émotions qui vont venir...
Complètement, bah, de toute façon, les expressions sont là. Hein. Je me fais de la bile, je me mets la rate au courbouillon, j'ai des nœuds dans l'estomac, j'ai le ventre tout retourné, j'ai la peur au ventre.
Ouais.
Ça me fait je dirais pas le mot, mais voilà, là c'est pareil, en fait, tout est vraiment dans le ventre, dans l'abdomen, c'est vraiment la source de nombreuses problématiques.
Et donc là, comment ça se passe, c'est les séances de Shin et Tsang ?
Alors les séances de Shin et Tsang sont toujours un très grand moment, on a toujours un moment d'échange, de discussion avec la personne qui vient me voir avant. Je m'assure aussi qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la contre-indication, parce qu'il peut y en avoir aussi. Donc que la personne soit bien OK pour recevoir ce type de massage. Et c'est un massage qui est complet. On va commencer par travailler les jambes, on va ensuite travailler les pieds. Et il y a tout un moment de détente ensuite sur le ventre qui est fait avec des pochons d'herbe que je fais venir de Thaïlande, qui sont chauffés à la vapeur. Donc les effets des herbes, les effets de la chaleur viennent travailler sur le ventre. Et ensuite, il y a tout un massage qui est réalisé avec mes mains et à l'huile, de façon superficielle au départ et de plus en plus profonde, organe après organe, de façon à rétablir l'énergie entre chacun de ces organes. Et on va terminer par un drainage lymphatique et une remise en circulation du chi, de l'énergie, au niveau du dos. C'est une grande, grande séance, très intense et très libérateur.
Et ouais, ça a l'air d'être un protocole long. C'est un long moment.
Oui, c'est un long moment. Le massage en lui-même dure entre 1h20 et 1h30 en fonction de ce que je retrouve. Plus le temps d'échange avant et le temps d'échange après, on est sur facilement de 2 heures à passer ensemble lors de ce soin.
Donc on est vraiment dans l'idée de prendre soin de soi, j'ai l'impression de prendre le temps de...
Ah oui, c'est important de prendre soin de soi, d'être dans l'instant présent, de prendre du temps pour soi et de lâcher prise.
Pas être pressé à faire les choses,
Non,
c'est pas
non,
comme
justement,
ça que ça
marche. On lève le pied.
On continue de faire un petit peu la liste des choses possibles. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est l'access bar. Je savais pas que c'était une technique de soin.
Alors, on parle peut-être pas du même bar.
Oui, c'est ça, je pense.
Là, on va parler de bar, BA2REs, du coup. Là, c'est un processus américain, c'est Access Consciousness qui a mis ça au point. C'est à travers 32 points au niveau de la tête, libérer toutes nos pensées bloquantes et limitantes. On agit toujours en fonction de ce qu'on nous a dit de faire, hein, depuis tout petit, fais ci, fais ça, fais pas comme ci, fais ça, fais pas comme ça. Et on finit par devenir celui que les autres ont voulu qu'on soit. On n'est plus soi-même. Et l'access bar, en fait, il y a des moments de doute, on ne sait plus comment avancer dans la vie, permet en fait de se libérer de tous ces blocages, de toutes ces barrières qu'on nous a mis. Et on retrouve un esprit beaucoup plus clair et on a accès à sa propre conscience et on ose être soi-même après, derrière.
Et ça se passe, du coup, j'imagine, pas à travers la discussion et l'échange ?
Alors, il y a une discussion, bien sûr, qui se fait avant. Et puis, tout le long du soin, on discute beaucoup. Donc là, la personne, pour moi, est allongée. Et je viens poser mes mains sur les 32 points au niveau de la tête, les uns après les autres.
D'accord.
Et ensuite, en fait, on va dire qu'il y a des barres d'énergie qui passent d'un doigt à l'autre. D'où les barres.
Ok, donc voilà. Effectivement, on ne parlait pas du même bar.
Non.
La technique du mimitopi, qu'est-ce que c'est ?
Le mimitopi, alors là, c'est pareil, c'est un soin que j'ai élaboré. J'ai repris, il y a un peu plus de 3 ans, des études en médecine traditionnelle chinoise. Et dans mon cursus, nous avons eu des cours d'auriculothérapie. Et dans ces cours d'auriculothérapie, on nous a communiqué un massage de l'oreille, puisqu'en fait, au niveau de l'oreille, il s'avère qu'elle est reliée en tant que zone réflexe à l'ensemble des organes. Et donc, du coup, le mimitopi, je commence par masser l'oreille pendant une bonne vingtaine de minutes, enfin les oreilles, de façon à stimuler l'ensemble de ces points et régénérer, donner de la force à l'ensemble du corps.
C'est comme la main ou les pieds. J'ai le souvenir d'avoir vu une image d'un pied avec tous les organes qui sont référencés sous le pied, sur mon appui.
C'est ça, c'est de la réflexologie palmaire, palmaire c'est la main, il y a facial avec le visage et l'auriculothérapie c'est au niveau de l'oreille, effectivement il y a 208 points comme ça. L'oreille en fait c'est comme un fœtus, la tête en bas.
D'accord.
La tête, il faut visualiser, mais, mais voilà, en fait, pour
schématiser ça. Donc ça fait tout le corps humain,
est là, et d'ailleurs, on le voit très très souvent à travers l'oreille. J'ai eu le cas il y a quelques temps d'un monsieur qui est venu pour un soin Reiki. Je vois son oreille et je vois au niveau de son oreille qu'il y avait des problématiques et au niveau de la hanche. Et effectivement, il avait des gros problèmes au niveau de la hanche. Il s'enlevait la nuit tellement il avait mal. Donc oui, on voit tout dans l'oreille aussi.
Et donc, le mimitopie, ça commence donc par ce fameux massage de l'oreille pour aller...
C'est ça, on va commencer par le massage de l'oreille une vingtaine de minutes, où là, chacun va ressentir une grande énergie parcourir le corps. Vraiment, ça c'est vraiment quelque chose qui ressort à chacune des séances. Et puis derrière, on va faire ce qu'on appelle une séance de bougie d'oreille. Alors, ce sont les Indiens d'Amérique, la tribu des Hopi, d'où le nom Mimi to Hopi, parce que Mimi veut dire oreille en japonais. Donc Mimi to Hopi, c'est oreille avec Hopi, donc la bougie Hopi, des bougies d'oreille qui ont, donc les Indiens d'Amérique qui ont créé ce soin, pareil, pour masser toute la sphère ORL, en fait, de l'intérieur.
Et donc là, c'est la chaleur de la bougie qui va venir créer...
Voilà, en fait, la bougie est un tube qui va agir comme une cheminée. Je l'introduis de façon très, très légère et douce dans le conduit auditif. Mmh. J'allume la bougie et donc, du coup, ça va faire comme une cheminée qui va venir chauffer et masser l'intérieur de l'oreille avec l'aspiration que le conduit va faire.
Voilà pour cette technique particulière de mimitopie, le tuina, pour continuer parmi, je crois que c'est la toute nouveauté, ça vous venez de...
Oui, c'est ça, j'ai pris des études en octobre 2018 en médecine traditionnelle chinoise, appliquée au massage tuina, que je viens de terminer, puisque j'ai eu mon diplôme tout récemment, la semaine dernière, c'est tout neuf. Le tuina, en fait, est une des disciplines de la médecine traditionnelle chinoise. On connaît tous l'acupuncture, qui est une des disciplines. Et il y a la pharmacopée, il y a la diététique, il y a l'acupuncture, le qigong et le massage tuina. Donc le massage tuina, en fait, qui veut dire saisir et pousser, c'est un massage, en fait, où on va vraiment, après avoir fait un grand bilan et une bonne discussion, voir quels sont les blocages énergétiques selon la médecine chinoise, et on va travailler ces blocages. Donc entre autres, c'est très intéressant pour des cervicalgies, pour des migraines, des céphalées, des lumbagos, des sciatiques. Et on travaille aussi avec ce massage, entre autres, les ventouses, comme le faisaient nos grands-mères et arrière-grands-mères pour certains, mais ça aussi c'est très très efficace, hein, toujours selon la médecine traditionnelle chinoise, et la moxibustion, où là on vient chauffer des zones avec soit des bâtons de moxa, soit des cônes de moxa qui sont réalisés avec une plante, l'armoise, séchée en Chine.
Moxibustion, il y avait combustion un peu dedans.
C'est ça.
Ouais. Donc on chauffe les parties du corps avec.
Voilà, avec la moxibustion, moxa. Donc cette plante et combustion, ce qui fait moxibustion.
Donc là, le tuina, on est vraiment, j'ai l'impression, dans l'apaisement de douleurs. Vous avez cité les céphalées, des douleurs musculaires, articulaires.
Oui, c'est tout à fait. Ça fait vraiment partie de la médecine traditionnelle chinoise. On est sur du thérapeutique.
La philosophie de la médecine chinoise, on la met souvent en opposition avec la médecine orientale, celle qu'on connaît, la médecine de chez nous, traditionnelle. Ce serait quoi les deux,
les deux films. On est sur des référents complètement différents. C'est vraiment pas comparable. À mon sens, c'est très très complémentaire, vraiment. On a vraiment besoin des deux médecines. La médecine chinoise traditionnelle, elle a plus de 4000 ans. Elle est vraiment sur l'observation du corps, de l'homme, de la nature, de son environnement. Des choses complètement simples, quelquefois, et évidentes. Que la médecine occidentale, aujourd'hui, elle est basée sur du physique et sur de la chimique. Ouais. Enfin, de la chimie, pas de la chimique. Mais voilà.
J'ai l'impression que la médecine occidentale, elle est plus dans la réaction à un problème, alors que la médecine chinoise, elle est plus dans la prévention du problème. On va prendre soin de soi pour éviter de tomber malade, de se faire mal.
C'est exactement ça. Déjà, on n'est pas sur une problématique, mais on va chercher la cause de la problématique. Et puis, effectivement, ce qui est très, très important en médecine chinoise, en fait, c'est la prévention. C'est bien une bonne alimentation, c'est vivre dans un bon environnement, c'est prendre soin de soi pour aller bien. En Chine, d'ailleurs, on va voir son médecin, en fait, une fois par an. Ouais. Et là, on va le payer et il va adapter notre régime alimentaire, il va adapter notre mode de vie, nos exercices, etc. Et si ça ne va pas, on tombe malade, on retourne le voir. Et là, on ne le payera pas parce qu'en fait, c'est qu'il n'a pas donné les bons conseils. Complètement une autre démarche.
Ouais. Toutes les techniques que vous proposez, comment est-ce qu'on fait pour choisir en fait, ce qui va être adapté à nous? Comment est-ce que ça se passe quand on vient vous consulter? Vous conseillez quelque chose?
Ouais, alors ce que je conseille toujours, c'est de m'appeler avant. Ouais. Et on discute. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu ne te mets pas sur Doctolib pour prendre les rendez-vous? Ben, tout simplement, je préfère avoir une bonne discussion avant de prendre le rendez-vous, de façon à orienter sur tel ou tel soin. Certains savent déjà pourquoi ils veulent venir, hein, ils ont déjà choisi leur soin, mais d'autres, effectivement, ne le savent pas. Donc on a une bonne discussion, un bon échange au téléphone, je conseille. Ensuite, les gens choisissent s'ils sont OK ou pas OK sur ce que je leur propose.
Ça se passe à Quillaco, à Villemorgon.
Voilà.
Si on veut vous connaître un petit peu mieux, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux.
Tout à fait, j'ai une page Facebook, donc Quillaco, activateur de bien-être, K-I-H-A-K-O, qui veut dire la boîte à énergie, pour info.
Et oui,
Et en fait, le cabinet est un chalet au milieu des vignes, avec vue sur le château de Pizet, vue sur le Mont Blanc, au milieu d'un jardin qui est fleuri. Après un soin, j'ouvre le jardin, comme ça les personnes peuvent aussi se poser avant de reprendre la voiture, prendre le temps, c'est vraiment important, tout en dégustant une infusion que je vais avoir offert.
Voilà, on prend soin de soi, c'est vraiment la devise, activateur de bien-être, ça se passe à Quillaco, merci beaucoup. Gwenaëlle Graillot, d'être venue nous en parler.
Merci beaucoup Mathieu, de ton accueil.
Ensemble sur Calade.
Allez, on continue en musique sur Calade, Bobby McFerrin avec Medicine Man.
I am a medicine man, I do a medicine dance. I am a medicine man, I sing a medicine chant. I am a medicine man, I have a medicine tail. I am a medicine man, I walk a medicine trail. I am a medicine man, I do a medicine dance.
Un morceau 100% a cappella avec Bobby McFerrin, c'est sa marque de fabrique. On continue, c'est l'heure de retrouver le coach.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Allez, effectivement, pour la chronique du coach, il est logique de retrouver le coach. Bonjour.
Bah oui, gamin, c'est logique. Salut, ça va?
Ça va bien et vous?
Bon, écoute, ça va. Hein, on va un peu s'intéresser aujourd'hui à tout ce qui est du sport et de l'activité physique.
Ah d'accord.
Ah bon. Oui, ça y est, tu te marres, je dis qu'on va faire du sport, tu te marres.
Bah, alors, on n'en a pas souvent parlé dans cette...
Oui, on n'a pas souvent parlé, il faut bien parler un peu de tout quand même. Alors tu sais que j'ai remarqué que ces dernières années, il y avait un nouveau concept de salle de sport qui est né. Ah. On appelle ça le crossfit, il me semble. Alors souvent, il est fait référence aux muscles, à la force, aux gladiateurs et aux spartiates. Il y en a même qui ont des noms un peu comme ça. Bon, la réalité, tu l'imagines, elle est un peu différente. Hein. T'as un groupe de bonhommes qui veulent en imposer et qui s'imposent à courir en portant des poids en fonte sur les trottoirs d'une zone commerciale en bordure d'autoroute. Alors, venez mes braves virils sur le goudron, respirez les gaz d'échappement de l'autoroute. C'est, en tout cas, c'est ce qu'on peut voir quand on se balade à Villefranche à certains endroits à côté de clubs. Hein. Ça fait rêver.
Ah oui.
Alors, comme t'as compris, gamin, cette conception d'exercice physique sur goudron à des fins narcissiques, c'est pas trop mon truc.
Ça vous plaît pas?
Non, c'est pas trop mon truc. Alors, figure-toi qu'une fois, je me suis inscrit en salle de sport. Ça remonte à ma jeunesse, hein, quand même. Hein. J'ai vite compris que c'était pas pour moi. Alors moi, je m'étais inscrit pour entretenir un peu ma forme, et puis c'était pas avec des objectifs de performance, tu vois. Hein. Alors le premier jour, ça faisait pas 5 minutes que je travaillais sur un appareil où il fallait lever un peu des trucs et tout. Il y a un gars qui est venu me donner son avis que j'avais pas sollicité. Il m'a dit, si tu veux prendre de la masse, il faut rajouter du poids. Et là, tu vas te développer. Bon, bah d'accord, mais moi, j'étais pas venu pour ça, mais lui, il pouvait pas imaginer. Il pensait que j'étais venu comme pour lui, tu sais, c'est le genre de mec qui marche avec les bras presque à 90 degrés comme ça et qui ont du mal à se gratter la tête tellement ils sont musclés. Alors, l'apothéose a été pour moi le vestiaire où plusieurs gars prenaient la pose devant un miroir comme ça, tu vois, et s'encourageaient les uns les autres sur leur prise de masse musculaire en faisant gonfler leurs muscles. Et à la fin, tournée de protéines pour tout le monde. C'était dégueulasse.
D'accord.
Alors, tu vois, gamin, ma conception d'exercice physique, je sais pas pourquoi, mais moi, je l'ai toujours associé à la nature, à la forêt et aux grands espaces. Mais pour autant, je suis pas du genre à aller courir tout seul. Parce que moi, ça me gonfle vite. Donc, un conseil, les gars. Si un jour, vous voyez votre coach se mettre à courir, moi, je serai vous. Je me mettrai aussi à courir et dans la même direction. Par contre, attention, j'ai rien contre ceux et celles qui vont courir. Hein, je respecte. Mais c'est juste que moi, c'est pas mon truc, quoi. J'y arrive pas. Bon, les gars qui soulèvent de la fonte sur le bitume, on comprend que ce qui les anime, c'est de correspondre aux normes de la virilité. Ils ne se développent pas de... Enfin, ils font ça pour développer du muscle, mais pas pour développer des compétences particulières avec leur corps. Ils veulent juste un corps qui sera vu comme désirable, une vitrine à proposer à autrui. Et quand on y réfléchit bien, bah, y a quelque chose de ridicule de courir sur des tapis roulants dans un espace confiné sous la lumière artificielle des néons. L'exercice physique, pour moi, c'est autre chose. C'est pouvoir développer des compétences physiques pour pouvoir faire face à différentes situations. Comme, par exemple, se casser la binette. Eh ben, apprendre à tomber, c'est important pour éviter de se faire mal. Glisser, par exemple, s'enfuir si nécessaire, ou se défendre, voire même porter secours. Simplement pour faire face à toutes les circonstances de la vie. Et figure-toi, gamin, qu'il y a un art martial qui a bien compris cela et qui applique ce principe. Cet art martial qui nous vient de Russie, c'est le systéma. Et le systéma s'appuie sur 4 principes, le mouvement naturel, la détente, la respiration, parce que bien respirer, c'est important. Et puis, il y en a un quatrième, mais j'ai oublié lequel c'était.
En tout cas, j'aime bien le second, la détente, ça me parle déjà.
Voilà. Et figure-toi que j'ai lu dernièrement un livre très instructif à ce sujet. Il s'appelle « A-t-on déjà vu un tigre faire des pompes ?» Il a été écrit par un professeur de systéma qui s'appelle Matt Hill et il est publié chez l'éditeur Ressources Primordiales. C'est vrai, les animaux n'ont pas besoin d'aller à la salle de sport pour être en forme et pour faire tous les mouvements qu'ils ont besoin de faire en tant qu'animal. Le tigre se contente de vivre sa vie de tigre. Le mouvement naturel, c'est l'invitation de ce livre qui est vraiment très bien fait. Il présente les principes du système A et nous invite à les mettre en pratique dans notre quotidien. Pas besoin de matériel particulier ni de tenue spécifique pour s'y mettre. Le système A, c'est un art de vivre que l'on peut intégrer dans chacun de nos mouvements et de nos gestes. Il n'est pas nécessaire d'être athlétique pour s'y mettre, chacun fait avec ce qu'il est. Et avec ce livre, j'ai pris une claque dès les premières pages. Parce qu'il y avait une invitation à calculer le temps que nous passons vraiment debout chaque jour et le temps que nous passons assis. J'ai fait le calcul et j'ai pris peur. Chaque jour de travail, hein, du lundi au vendredi, je me suis rendu compte que je passe pas plus de 2 heures debout. Tu te rends compte sur 24 heures. Ouais. C'est flippant. Amusez-vous à faire le calcul, les gars, vous allez voir. Du coup, dès le lendemain de cette prise de conscience, j'ai hacké mon bureau. Ni plus, ni moins. J'ai posé une table basse sur mon bureau pour pouvoir travailler debout. Et ça a été une révélation, les gars. Depuis, je bosse debout et c'est vachement plus confortable pour moi. Pas de tension dans le dos, et du mouvement sans arrêt. Et ben, ça aide à se concentrer, ça aide à réfléchir. Ce bouquin, il regorge d'exercices et de propositions de nouvelles façons de faire pour retrouver l'ensemble des mouvements naturels que nous devrions être capables de réaliser. Aller facilement au sol et se relever sans difficulté, s'accroupir facilement, tomber sans se faire mal. Des mouvements qui nous semblaient si faciles lorsque nous étions enfants et qui deviennent si rares en grandissant. Le nombre de personnes qui ont peur de tomber et de se faire mal, c'est impressionnant, alors que c'est quelque chose qui devrait pas nous faire peur jusqu'au dernier jour de notre vie. Un des principes fondamentaux du système A, pour ne pas dire la base, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la respiration. Et portez un peu attention à votre respiration et au nombre de fois où vous vous arrêtez de respirer quand vous faites un effort ou lorsque vous êtes soumis à une émotion forte. Ben, ça semble idiot de se priver d'oxygène dans les moments où nous en avons le plus besoin et pourtant c'est cette mauvaise habitude que nous avons tous pris. Et ce livre aussi vous propose de réapprendre à respirer correctement pour ne jamais manquer d'air au sens premier. C'est vraiment primordial. Et pour finir, je dois dire que la philosophie du système A m'a beaucoup parlé. Dans le système A, il n'y a pas de comparaison et de compétition avec les autres. Hommes et femmes travaillent ensemble, jeunes, vieux, grands, petits. Il n'y a vraiment pas de différence ni de catégorie. Chacun construit sa pratique à partir de ce qu'il est. Et même dans la pratique collective, il n'est pas question d'adversaire, mais de partenaire de travail pour évoluer. C'est une approche vraiment différente. C'est un combat contre nos mauvaises habitudes et non contre les autres. On évolue avec l'aide des autres. Alors je vous encourage, les gars, à tester le système A. Je sais qu'il y a des stages qui sont régulièrement organisés par un club lyonnais qui s'appelle la Fabrique du Souffle et qui fait des journées de stage le samedi à Rivolet. Je crois même d'ailleurs que vous en aviez parlé ici même dans cette émission.
J'ai reçu un membre de la Fabrique du Souffle, effectivement.
Alors soyez malins, les gars, vous recherchez un peu dans les anciennes émissions du gamin et vous allez sûrement trouver tout votre bonheur sur les stages de Système A à Rivolet. Et si le bouquin vous intéresse, eh bien on va demander au gamin de mettre les références sur l'article qui va accompagner ce podcast. Voilà.
Parfait, merci beaucoup. Je crois qu'on s'est peut-être mis à dos quand même les aficionados des salles de sport.
Il faut dire qu'ils ont l'air cons quand même. Hein.
À bientôt, coach.
À bientôt, gamin.
Ensemble sur Calade.
Allez, bon, on continue en musique tout de suite. On écoute les Hush Puppies, titre de 2011, Low Compromise Democracy. You're gonna break me, you're gonna hate me, you're gonna sink that sudden death suddenly. Sick. No one is such a prick. You just can't imagine. It's a trick I adore. Ooh, baby, everything is wrong. Ooh, baby, everything is wrong. Ooh, everything is alright. Ooh, everything is alright. A-N-D-I-N-G standing, I'm outstanding. No one can reach me. is alright, nous chantent les Hush Puppies avec Low Compromise Démocratie, je le dis avec l'accent cette fois.
Ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Allez, on retrouve tout de suite Bertrand Lamure, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors de quoi allez-vous nous parler? De quoi est fait votre humeur littéraire cette semaine?
Mon humeur, elle est globalement positive. Alors en fait, je me suis dit qu'après un week-end où il a fait beau,
ouais.
Après un lundi où il a fait tellement gris, je crois.
Ouais.
Voilà.
Ah oui.
Et ben je crois qu'il était temps de parler de nature.
Ah,
et je crois que je n'avais encore jamais abordé, et ça je m'en excuse, une collection absolument magnifique chez Actes Sud qui s'appelle la collection Monde Sauvage. Alors c'est une collection d'avoir une dizaine de livres maintenant. Alors cette idée de cette collection, elle vient en particulier de personnes comme Baptiste Morisot. Et l'idée première, c'était de mettre en commun, c'est-à-dire mettre en commun des personnes qui ont des parcours singuliers, qui sont évidemment très à l'écoute de la nature par leurs travaux, par leur vie, et d'être un petit peu des ambassadeurs de la nature, mais surtout du monde sauvage. Et j'en ai lu un certain nombre que je trouve absolument flamboyant. Et donc je voulais commencer par celui qui pour moi incarne le mieux cette idée du monde sauvage avec des lectures passionnantes, c'est justement Baptiste Morisot. Alors Baptiste Morisot, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un philosophe, mais c'est aussi quelqu'un qui est au cœur de la nature. C'est un, on pourrait le qualifier de pisteur. Pisteur dans le sens où lui il va pister les traces animales, il va pister le vivant. C'est absolument magnifique. Alors, ce qui est intéressant, je me suis fait la réflexion ce week-end, dimanche, où on se baladait à Saint-Cyr-le-Chatou, donc pas loin d'ici, village magnifique, attention. Hein. Et je me suis dit, beaucoup de monde, beaucoup de voitures, beaucoup de quads, beaucoup de crosses, beaucoup de déchets, et on est pourtant en pleine nature. Et je me suis dit, ben voilà, c'est la nature, mais en fait, c'est plus vraiment la nature. Hein.
Ouais.
C'est juste une sorte de terrain de jeu pour caladois en détresse. Et avec Baptiste Morisot, c'est quelque chose de... C'est autre. Donc lui, il est... il est ce pisteur. Et même dans l'idée que lui, quand il va pister, il dit il va dans le bush. Alors dans le bush, il dit, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je vais sur ces terres, on va trouver les traces animales, on est loin de nos sentiers du Beaujolais, très très sympa, hein, que je fréquente beaucoup, mais où on a nos panneaux de direction, où on voit de temps en temps un chevreuil, on dit, putain, ça y est, c'est génial, c'est le plus beau moment de ma vie.
Ouais, c'est voilà. Pas très sauvage, quoi.
C'est pas super sauvage.
Ouais.
Voilà. Et du coup, alors... Il avait fait un premier livre qui s'appelait « Sur la piste animale ». Un très très beau livre sur la piste animale où justement il va pister le loup. Il va pister le loup et il explique comment à 4 heures du matin, alors qu'il est avec un berger et son troupeau, et il tombe sur le loup. Quoi. Le loup est à 40 pas de lui et bah voilà, c'est des rencontres uniques. Et évidemment, là, il sent la force animale, il sent le vivant.
Ouais.
Véritablement ici. Donc lui, c'est vraiment l'idée, il a cette expression de s'enforester.
Et
il l'a fait pareil à Yellowstone aux États-Unis, dans plein d'autres endroits.
Et il nous emmène alors dans le bush.
Alors en fait, il pourrait nous emmener dans le bush, mais pour lui,
je connais pas ce mot. Le...
Alors le bush, tu sais, c'est le bush australien, c'est-à-dire ces grandes terres sauvages inexplorées, inexploitées, et qui font que bah ça peut être ce bush qu'on peut trouver. Alors nous, en France, on n'a plus vraiment de ces terres qui sont ces terres sauvages, c'est-à-dire ces forêts primaires qu'on peut trouver encore en Amérique du Nord, un petit peu dans certains territoires. Nous, bah ça y est, on a tout arpenté, etc.
Ouais.
Et du coup, c'est là que véritablement on va être un peu en osmose avec la nature. Et justement, dans un autre texte de lui, qui est « Manière d'être vivant », qui est un peu plus récent, qui est toute une série d'articles, en fait, il revient sur quelque chose qui est, je trouve, absolument extraordinaire. Par exemple, en quatrième de couverture de ce livre, il va dire « Imaginez cette fable. Une espèce fait sécession. Elle déclare que les 10 millions d'autres espèces de la Terre, ses parentes, sont de la nature. » À savoir, non pas des êtres, mais des choses, non pas des acteurs, mais le décor, des ressources à portée de main. Et là, je l'avais entendu, où il parlait d'une expression qu'il détestait, qui était la protection de la nature. Et il disait, mais c'est quoi ce délire de se dire que nous, humains, on va se dire, allez, on protège la nature. Mais de quel droit on protégerait la nature? Parce qu'on fait partie de la nature. Mmh. Et pourquoi nous, on aurait un peu comme le grand Manitou qui va protéger les petits, etc. Et j'ai trouvé que c'était tellement vrai. On s'est arrogé quelque part ce privilège ou ce devoir de protéger la nature, mais on fait partie de la nature. Enfin, voilà, c'est très très intéressant sur ces textes-là. Mmh. Et du coup, ça ouvre la porte à plein d'autres expériences, d'autres auteurs, en dehors de Baptiste Morisot, qui pour moi est je trouve essentiel à lire à un moment ou à un autre, que ce soit sur la piste animale ou manière d'être vivant. Son dernier, Raviver les braises du vivant, et reprend un peu certaines choses vues auparavant. Un livre qui m'a beaucoup, beaucoup plu, parce qu'il est rempli de poésie. C'est un livre, donc toujours dans la collection Monde Sauvage, un livre de Laurent Tillon. Et Laurent Tillon a écrit un livre qui s'appelle « Être un chêne ». En fait, c'est magnifique. Quand il était gamin, quand il était ado, il se baladait dans la forêt de Rambouillet. Mmh. Et avec son vélo, etc., sur un sentier. Et il tombe face à un chêne. Et ce chêne, c'est le choc de sa vie. Il est grand, il est majestueux, il a 200 ans, donc c'était il y a 40 ans, et il considère que c'est l'arbre de sa vie. Et il va le suivre, il a 40 ans, ça fait 40 ans, enfin pas 40 ans, mais du coup 25 ans qu'il le suit, et qu'il va le voir régulièrement. Et il nous raconte la vie de Quercus. Alors Quercus, ce n'est qu'un arbre, il dit qu'il y a 3000 milliards d'arbres sur Terre. Ouais. Mais cet arbre-là, qui a 240 ans, il essaie d'en faire son histoire. Il essaie de voir comment, effectivement, cet arbre, il est en lien avec lui. Et je me suis dit, c'est beau de se dire qu'on choisisse un arbre. Aujourd'hui, les arbres sont vraiment au cœur. Hein. On avait eu le très beau livre de Vollenben sur, justement, comprendre la vie d'un arbre. Et là, c'est un texte poétique et en même temps, on a tous envie, en le lisant, de dire « Oh là, il faut que je me trouve mon arbre
». Moi aussi, je dois trouver mon arbre. Oui, c'est vrai, ça donne envie.
Ça donne, envie. Je continue, à un moment, je dois m'arrêter, mais pour l'instant, comme je n'ai pas de gong, je continue. Avec un autre, toujours dans la collection Monde Sauvage, d'un homme qui s'appelle Yves Elie, qui est un documentariste, et qui est revenu dans les Cévennes, mais dans les Cévennes, les Cévennes un peu sauvages, et il s'est mis en osmose avec l'abeille noire, donc cette fameuse abeille qu'on voit beaucoup dans le sud et entre autres dans les Cévennes, qui a une force d'adaptation, parce qu'on est sur des terres très froides, très pauvres, et donc on a ces abeilles qui se sont adaptées. Et pareil, c'est de nouveau un très beau texte sur la beauté du vivant, l'adaptation du vivant, et la manière dont nous, on doit aussi faire partie de ce vivant et non pas être dans le protecteur de cette nature, parce que ce sont des petits faibles et nous, on est des grands gentils, bien évidemment. Et alors, il y a de très très belles illustrations dans ce livre et il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui est la déclaration universelle de l'abeille. Et alors là, j'ai trouvé ça fabuleux qu'on fasse une déclaration universelle des droits de l'abeille. L'article 1. L'abeille a le droit à la tranquillité, à la sédentarité de ses colonies et à être dérangée par l'homme aussi rarement que possible. Et pour le côté sympathique, l'article 6, la reine des abeilles et sa cour choisit souverainement les mâles reproducteurs pour l'avenir de leur peuple. Voilà. Et il y a comme ça 11 articles. Très bien.
La déclaration universelle des droits des abeilles. Donc c'est dans la vallée de l'abeille noire de Yves Elie. C'est ça?
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Toujours dans cette collection.
Toujours dans cette collection Monde Sauvage. Et je suis obligé de finir avec Vinciane Després.
Ouais.
Parce que Vinciane Després fait vraiment partie de la bande de Morisot et autres. Hein. C'est pareil, elle est philosophe d'origine, enfin elle est belge, hein, pour d'origine. Et elle, alors, donc pareil, elle gravite autour de ce monde-là. Et elle vient de sortir, mais je n'ai encore pas lu celui-ci, qui est l'autobiographie d'un poulpe. Et du coup, là, elle nous emmène presque dans un récit d'anticipation sur l'avenir du vivant. Et il me reste à lire, dans cette collection que je trouve passionnante, « Penser comme un iceberg », que je n'ai encore pas lu, mais qui doit être passionnant, et « L'ours, l'autre de l'homme ici ». Tellement les liens depuis la préhistoire sont forts entre l'homme et le vivant.
Donc, je suis curieux de découvrir aussi l'autobiographie d'un poulpe, c'est surprenant. Merci beaucoup Bertrand Lamure pour nous faire découvrir cette jolie collection.
Tout à fait, je vous laisse vous enforester à merveille.
Merci beaucoup encore une fois, à très
bientôt.
Bonne
journée, au revoir.
À bientôt, au revoir. Allez, c'est la fin d'Ensemble sur Calade. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez les émissions sur notre site internet, rediffusion demain matin à 10h. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.